Ready! Freeze that! Move!
The Great Crossing, Franklin Delano Roosevelt, the Ally.
Grande Traversée, Franklin Roosevelt, l'Allié.
My name is Mike Audenreath.
Je m'appelle Michael Audenreath.
National Park Ranger with the National Park Service here in Hyde Park.
Je travaille pour le service des parcs nationaux ici à Hyde Park depuis environ 30 ans. C'est très sympa de travailler ici. C'est une époque incroyable de l'histoire des États-Unis et du monde.
FDR and Eleanor
Franklin et Eleanor Roosevelt incarnent sûrement l'histoire politique la plus importante de tout le XXe siècle aux États-Unis. Je vous emmène à la roseraie. Ils sont enterrés le président et Madame Roosevelt pour une cérémonie d'anniversaire. C'est l'anniversaire de Franklin Roosevelt aujourd'hui. Il est né le 30 janvier 1882. Et chaque année, on organise une petite cérémonie devant les tombes. Une fois que ce sera terminé, je vous conseille de revenir à l'accueil des visiteurs parce qu'il y aura du gâteau et c'est toujours délicieux. Sur votre droite, derrière cette haie, vous avez la roseraie. C'était la roseraie de sa mère. Franklin Roosevelt a été le premier membre de la famille à être enterré sur sa propriété. Sa femme, la première dame, Eleanor Roosevelt, y a rejoint après sa mort en 1962.
Les tombes de Franklin et Eleanor Roosevelt sont à ras du sol, simplement couvertes d'herbe. Une démarcation invisible les distingue et les dessine sur le reste de la pelouse. Leurs deux noms sont gravés sur une stèle de marbre blanc, juste à côté.
Je ne sais pas quel est le meilleur emplacement pour votre micro. Peut-être sur l'estrade. Les tombes sont devant le monument. Celle de Franklin Roosevelt, c'est celle avec le drapeau américain. Celle de la première dame est un peu plus près de nous.
In the Jewish tradition, Mr. Hochhauser is placing a stone on the headstone to indicate a visitor has come to show respect, that the deceased has not been forgotten, and to rekindle the memories of the past.
And so a lot of
Ce que nous savons des enseignements et de la vie de Franklin Roosevelt, mon frère Paul et moi, nous a été rapporté en grande partie par notre père, John, qui est un des petits-fils de Franklin et Eleanor.
Joshua Buttiger.
On a grandi avec ces récits personnels. Quand il était petit, le plus grand rêve de notre père était de travailler pour le Secret Service. Parce que les gardes du corps du président étaient alors ses meilleurs amis. Il se souvient que Franklin Roosevelt et lui s'amusaient parfois à essayer de semer le Secret Service. Ils entraient dans l'ascenseur de la Maison Blanche, refermaient la grille derrière eux et montaient et descendaient les étages. Il appelait Franklin Roosevelt papa et il se souvient de cette vitalité, de cette énergie et encore une fois de cette joie irrépressible. On peut voir ça simplement comme un trait de caractère sympathique. Mais je crois qu'à bien des égards, c'est cette joie qui lui a permis de guider notre pays et le monde à travers des temps troublés. Franklin Roosevelt aimait les histoires, peut-être la sienne plus que tout autre, et il avait un sourire merveilleux. Il jetait la tête en arrière et éclatait de rire. Il disait « ça, ça me plaît ». C'était son expression favorite, d'après mon père.
His childhood was unlike most Americans. He was the child of
Il a eu une enfance assez différente de celle de la plupart des Américains.
He was
Ses parents étaient très riches. Il a été choyé et cloîtré. Il était totalement sous la coupe de sa mère. Elle l'adorait, c'était son seul enfant.
Geoffrey
Ward.
Si vous pensez qu'être une bonne mère, un bon parent, ça consiste à penser que votre enfant peut réussir absolument tout ce qu'il entreprendra et à l'en convaincre, alors ça a été un triomphe. Dieu sait qu'elle pouvait être difficile, mais il a grandi avec la certitude qu'il deviendrait quelqu'un de très important. Et c'est ce qui s'est passé. En grande partie grâce à cette mère qu'on critique tant.
C'est
elle qui tenait les cordons de la bourse familiale. À Springwood, la maison où il a grandi, elle se sentait chez elle.
She led a very Victorian, Edwardian, 19th century life.
Elle vivait comme à l'époque victorienne ou édouardienne, comme au 19e siècle. La maison de Springwood n'a jamais été équipée d'un réfrigérateur de son vivant. La plupart des familles américaines avaient un réfrigérateur. Elle se faisait livrer de la glace tous les jours parce que c'était la tradition. Elle était comme ça. Malgré son côté très vieux jeu, c'était un président qui façonnait un nouveau genre de gouvernement pour les États-Unis. Pourtant, il rentrait tous les soirs dans une maison qui était restée exactement la même que dans les années 1890. Il sonnait la cloche pour se faire apporter le dîner. C'était une vie très formelle. Elle y tenait beaucoup.
Ça, c'était le vestibule. C'est ici que Franklin Roosevelt ou sa mère accueillaient les visiteurs.
Francesca Maxali Urbine.
Il y a dans cette pièce toutes sortes d'objets qui évoquent les différents centres d'intérêt de Franklin Roosevelt. Beaucoup de marine, parce qu'il adorait les bateaux. Son père l'a initié à la voile sur le Hudson River. À l'âge de 8 ans, il faisait déjà du bateau tout seul sur l'Hudson. Il adorait la marine. Il a toujours voulu devenir officier de marine. C'était son premier choix de carrière. Mais son père s'y est opposé parce que ça impliquait de longues absences et James, qui commençait à vieillir, ne voulait pas que son fils s'absente trop longtemps de la maison. Il a eu une enfance merveilleuse. Franklin était fils unique et son père passait beaucoup de temps à lui transmettre l'amour des terres. Si bien que Franklin Roosevelt a toujours gardé un lien très fort avec cette propriété qu'il adorait. Et même s'il a vécu à différents endroits, sa maison était ici. Il a dit un jour, pendant une soirée électorale, « C'est ici qu'a toujours été et que sera toujours mon cœur. » C'était un ancrage, une source de joie inépuisable.
Je voudrais ajouter quelque chose dont on ne parle jamais.
Monsieur James,
le père de Franklin,
il
avait eu une première femme qui lui avait également donné un fils.
James Roosevelt Roosevelt.
James Roosevelt Roosevelt. Tout le monde l'appelait Rosie.
He's a sort of, for me, the perfect contrast.
Pour moi, il est l'antithèse parfaite de Franklin Roosevelt. Il était immensément riche. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il a épousé une des filles de la très opulente famille Astor et s'est ensuite occupé de gérer son argent. Il était aussi plus ou moins diplomate. Mais ce qu'il aimait surtout, c'était l'attelage et les courses de chevaux. Il était tout ce que Franklin Roosevelt aurait pu être, mais n'était pas. Il était en quelque sorte l'antithèse parfaite de Franklin Roosevelt, qui s'est consacré à la vie publique.
Rosie
s'est contentée de s'amuser jusqu'à sa mort. J'ai toujours trouvé ça stupéfiant de penser que ces deux garçons avaient le même père. La seule différence, c'est la mère.
Roosevelt is a Dutch name.
Les Roosevelt sont originaires de la province néerlandaise de Zeeland. Ils sont arrivés comme colons très tôt dans l'histoire de notre pays.
They were
Anne Roosevelt. Ce n'étaient pas des aristocrates ni des gens riches. C'était sans doute des fermiers.
And came over to this new land.
Après avoir émigré dans ce nouveau pays, qui offrait aux gens l'opportunité d'une nouvelle vie, ils ont prospéré et amassé de nouvelles fortunes. La branche de la famille dont je suis issue, la branche d'Isaac Roosevelt, avait des intérêts financiers. Mais elle était surtout très proche de la terre. C'était des fermiers. Teddy, l'oncle de ma grand-mère, venait de l'autre branche de la famille,
Teddy,
qui était plus tournée vers les affaires.
The other side of the family that was more engaged in business.
Teddy, Theodore Roosevelt, cousin lointain dont le visage est désormais sculpté à côté d'Abraham Lincoln, George Washington et Thomas Jefferson dans la pierre du Mont Rushmore. Il planait déjà sur la jeunesse dorée de Franklin Roosevelt. Gouverneur de l'État de New York, puis secrétaire adjoint à la Marine, puis président des États-Unis, de 1901 à 1909.
Franklin Roosevelt ne serait jamais devenu président si Theodore Roosevelt ne l'avait pas précédé.
Theodore
Roosevelt était son héros. C'est l'homme qui a prouvé à Sarah Delano Roosevelt, selon ses propres termes, qu'un gentleman pouvait être un dirigeant politique. Jusque-là, elle considérait la politique comme une sale besogne qui impliquait de traiter avec les gens des classes inférieures.
Ce
n'était pas une activité convenable pour un bon garçon. Mais Theodore Roosevelt était irrésistible et flamboyant. Il était beaucoup de choses que Franklin Roosevelt n'était pas. Il était bruyant. Ses gestes étaient vifs et son esprit aussi. Il avait une opinion sur tout. C'était un président extraordinaire. Et Franklin Roosevelt, il lui vouait un véritable culte.
FDR absolutely worshipped him.
Est-ce chez les Roosevelt le goût des terres plutôt que celui de l'industrie? Est-ce les prêches à l'église presbytérienne où l'on répète que l'homme riche entrera moins facilement au paradis que le chameau dans le chat d'une aiguille? Teddy le républicain, aux grandes dames de son parti, attaque les monopoles industriels, ceux qu'il appelle les malfaiteurs de grande fortune. Pendant ce temps, Franklin, étudiant à Harvard, rédige une dissertation sur sa propre famille, les Roosevelt. Quelques-unes des célèbres familles hollandaises, écrit-il, n'ont plus aujourd'hui que leur nom. Elles comptent peu de membres, manquent d'esprit de progrès et d'un véritable sens de la démocratie. L'une des causes, peut-être la principale, de la virilité des Roosevelt, c'est leur état d'esprit. Ils n'ont jamais cru que parce qu'ils sont nés avec une situation avantageuse, ils pourraient mettre les mains dans les poches et réussir. Au contraire, ils ont pensé qu'étant nés dans une situation avantageuse, ils n'auraient aucune excuse de ne pas faire leur devoir auprès de la collectivité.
As a young person,
Dans sa jeunesse, il avait beaucoup de succès auprès des gens plus âgés. Il était très bien élevé, très poli, toujours gentil avec eux. Les gens de son âge ne s'intéressaient pas tellement à lui. Bien qu'étant un Roosevelt, il n'était pas spécialement admiré à Harvard. Mais les gens de la génération de sa mère l'ont toujours apprécié. Je pense que c'était lié à ses manières et à son charme incroyable. À bien des égards, c'était quelqu'un de très vieux jeu. Il a porté toute sa vie des costumes que son père s'était fait faire pour lui. Et avant sa mort, il a passé à son fils une veste de costume qui avait appartenu à son père. Il aurait pu s'acheter tous les costumes qu'il voulait, mais c'était un drôle de mélange. Je pense que grâce à l'assurance absolue que lui avait inculqué sa mère, il pouvait affronter à peu près n'importe qui. Il se considérait toujours comme la personne la plus importante dans la pièce. Et bien souvent, il était, en effet, la personne la plus importante dans la pièce.
Teddy
était ce qu'on appelait alors un progressiste, ce qu'on appellerait aujourd'hui encore un progressiste. Je pense que mon grand-père admirait énormément l'oncle Teddy. Il voyait une grande sagesse dans les mesures qu'il avait prises pendant son mandat, et il a d'ailleurs prolongé ses programmes.
Franklin doesn't get much credit for some of the things that Teddy gets a lot of credit for, but I think it was out of respect for.
Il y a certaines choses pour lesquelles on attribue peu de mérite à Franklin, alors qu'on en attribue beaucoup à Teddy. Mais je crois que c'est par respect pour ce parent éloigné qu'il a pris au sérieux l'environnement, la conservation des sols, les mesures antitrust et la réglementation des affaires pour empêcher la mise en place d'une société trop disparate.
Regulation of business so that there wasn't this creation of a disparate society.
Je crois qu'il y avait une grande proximité intellectuelle entre eux. Teddy a beaucoup influencé mon grand-père. Pas à 100%, mais il l'a beaucoup influencé.
Il y a trace d'une autre de ses bénédictions dans les archives. 29 novembre 1904, la Maison Blanche, Washington. Cher Franklin, nous nous réjouissons de la bonne nouvelle. J'aime Eleanor comme si elle était ma propre fille. Et je t'apprécie, je te fais confiance, je crois en toi. Aucun autre succès dans la vie, pas même la présidence ou toute autre chose, ne peut se mesurer à la joie et le bonheur que fait naître l'amour entre un homme et une femme sincère. Toi, Éléonore, êtes sincère et courageux, et je sais que vous vous aimez avec une grande générosité. De belles années vous attendent. Ton lointain cousin, Théodore.
Eleanor Roosevelt was the daughter of Theodore Roosevelt's tragic.
Eleanor Roosevelt était la fille du frère malheureux de Theodore Roosevelt, tué à petit feu par l'alcoolisme.
She was an orphaned person.
À la mort de sa mère, elle est devenue orpheline.
Theodore Roosevelt and his wife,
malgré leur bienveillance, Theodore Roosevelt et sa femme la traitaient un peu comme un parent pauvre. Elle n'a jamais eu le sentiment de faire partie d'une famille.
Theodore Roosevelt attended the wedding.
Theodore Roosevelt a assisté au mariage de Franklin et Eleanor. Il est venu leur donner sa bénédiction.
They scheduled their wedding.
Ils ont choisi de se marier le jour de la Saint-Patrick.
Because Theodore Roosevelt would be marching in the Saint.
Parce que Theodore Roosevelt devait participer au défilé de la Saint-Patrick à New York. Il a quitté le défilé le temps de faire une apparition et s'est immédiatement retrouvé au centre de l'attention. Plus personne ne s'intéressait aux mariés.
Eleanor Roosevelt was a very shy, very.
Eleanor Roosevelt était une jeune femme timide, initialement assez introvertie, déjà marquée par la tragédie. Mais elle était aussi très profonde et tout à fait charmante à l'époque. On pense souvent à elle comme à une vieille dame, mais elle était plutôt jolie. Et elle était stupéfaite de l'amour qu'elle semblait inspirer à ce jeune homme athlétique et plein d'entrain, car il l'aimait. Beaucoup de gens ont écrit qu'il l'avait épousée parce que c'était la nièce de Theodore Roosevelt. C'est ridicule.
Theodore Roosevelt. That's silly.
Ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre au
really
départ.
Were in love with him, each other initially.
Ils ont eu une relation très compliquée, mais dans les premiers temps, c'était délicieux.
Initially, it was sweet.
Petit monde des dynasties où deux époux portent déjà le même nom, qui est aussi celui du président en fonction. Franklin, grand type fortuné portant faux col et pince-nez, n'annonce rien du héros des oubliés. Eleanor, fragile orpheline, ne promet pas de devenir une femme qui dérange. Tout commence même de façon très traditionnelle. En 10 ans, Eleanor Roosevelt met au monde 6 enfants, dont un ne survit pas. Elle vit sous le regard et le joug de sa riche belle-mère.
Sarah et Eleanor Roosevelt étaient toutes les deux des femmes très fortes. Mais au début de son mariage avec Franklin, Eleanor Roosevelt ne savait pas vraiment tenir une maison. Elle avait perdu sa mère quand elle était enfant et elle se reposait donc beaucoup sur sa belle-mère. Sarah a très vite pris en charge la gestion de la maison. Et quand Eleanor est devenue un peu plus indépendante et qu'elle a voulu reprendre les rênes, le rôle de Sarah était déjà bien établi. C'est toujours resté la maison de Sarah jusqu'à sa mort en 1941. Et ils avaient aussi une maison de ville à New York, dont Sarah leur avait fait cadeau pour Noël. Elle avait fait construire une maison en deux parties. Elle occupait un côté et ils occupaient l'autre. Mais les deux parties étaient communicantes, si bien qu'elle pouvait venir chez Franklin et Eleanor chaque fois qu'elle le voulait. Et elle avait aménagé leur côté, ce qui n'avait pas plu à Eleanor, car aucune femme n'a envie de laisser une autre décorer son intérieur. Franklin trouvait ça très gentil de la part de sa mère, mais Eleanor n'était pas du même avis, et on la comprend. Il y avait donc des hauts et des bas. Parfois, elles s'entendaient très bien, et d'autres fois, moins. Quand on a deux femmes fortes dans la même maison, ça crée forcément des tensions.
Oh, man, sunshine, listen you. Never tell me dreams come true. Just try it, and I'll start a riot. Beatrice Fairfax, don't you dare ever tell me he will care. I'm certain it's the final curtain. I never want to hear from any cheerful Pollyannas who tell you fate supplies a mate. It's all bananas. They're writing songs.
Pendant ce temps, Franklin devient avocat d'affaires, puis se fait élire sénateur de l'État de New York.
Lorsqu'il s'est lancé en politique, il a d'abord vérifié que Theodore Roosevelt ne se formaliserait pas de le voir se rallier aux démocrates. Alors que la famille avait toujours été républicaine, pas du côté de Franklin Roosevelt, mais du côté de Theodore. Theodore Roosevelt lui a donné sa bénédiction.
We'll be all right with him.
I mean, Theodore Roosevelt was a reform-minded Republican.
Theodore Roosevelt était un républicain réformateur, mais c'était différent. Il est mort en 1919.
Michael Cousin.
Dès l'époque de Thomas Jefferson et d'Andrew Jackson, le Parti démocrate soutenait par tradition le capitalisme moral, selon lequel le gouvernement devrait être plutôt du côté des gens ordinaires, au moins dans la rhétorique. C'est en partie pour cette raison que les démocrates se sont opposés à des droits de douane élevés sur les produits industriels. Ils considéraient que cela revenait à taxer les petites entreprises, que ce serait très difficile pour les petites entreprises de rivaliser avec les plus grandes, par exemple. Les démocrates ont été les premiers à se prononcer en faveur d'un impôt sur le revenu, à l'adopter au Congrès et à faire pression pour qu'il soit inscrit dans la Constitution. Mais il est vrai que l'État de New York, d'où Theodore Roosevelt et son cousin éloigné Franklin Roosevelt étaient originaires, jouissait d'une plus grande tradition de réformes sociales, notamment parce qu'il s'agissait d'une région à forte immigration, en particulier à New York et d'autres villes industrielles. Il y avait un mouvement ouvrier très important dans l'État de New York, plus important que dans la plupart des États du pays. Et c'est ce qui a contribué à promouvoir une politique de réforme sociale, ce qui n'était pas le cas dans le Sud, où les démocrates étaient aussi très puissants.
Dans cette Amérique qui lynche encore l'homme noir et fête sa mort au pied des arbres devenus potences, qui vit encore sous le régime de la prohibition de l'alcool et donc sous le règne du marché noir et de ses mafias, qui se demande pourquoi le pays s'est mêlé de la guerre en Europe et quels doivent être ses liens au reste du monde, qui n'aime pas ces vagues de migration venues d'Europe de l'Est, trop de juifs, qui distingue le Nord du Sud mieux que les républicains des démocrates, dans ce pays-là, Franklin Delano Roosevelt est un progressiste. Mais si à l'aise dans l'effervescence et les mondanités de la capitale, si peu surpris que son nom circule dès qu'il est question des futurs présidents, qu'il n'y a aucune raison qu'il aille violemment secouer ce monde taillé pour lui. Teddy est mort. Franklin marche dans ses pas. Les démocrates font de lui le candidat à la vice-présidence lors de l'élection de 1920. Ils perdent. Washington tombe aux mains républicaines. Pas grave. Franklin s'en retourne jouer les avocats d'affaires, un vrai petit capitaliste, comme il le dit lui-même.
FDR was very gregarious. He loved parties.
Franklin Roosevelt était quelqu'un de très sociable. Il aimait les mondanités. C'était un excellent danseur. Il était très beau. Il était charmant. Et pendant la Première Guerre mondiale, il est devenu secrétaire adjoint à la marine et s'est retrouvé au centre d'une vie mondaine intense à Washington. Elle n'aimait pas sortir. Elle n'aimait pas tellement être en société. Elle se sentait souvent mal à l'aise et pas à sa place. Et il aimait séduire. Et elle ne savait pas comment réagir.
Geoffrey Ward.
Et puis elle a engagé une secrétaire. Une jeune femme très belle et très gentille. Appelée Lucy Mercer. Et Mercer et Franklin Roosevelt ont eu une liaison. On ne sait jamais vraiment dans ces cas-là.
We never know about these things, so it's hard to know how much of an affair, in quotes, it was.
Il est difficile de dire exactement ce qui s'est passé entre eux. En tout cas, ils ont eu une relation amoureuse.
When Mrs. Roosevelt discovered it,
quand Madame Roosevelt l'a découvert, ça l'a horrifiée et profondément déprimée.
And deeply depressed, and offered to divorce FDR.
Elle a proposé de divorcer de Franklin Roosevelt.
Then the story gets murky. His mother.
Ensuite, l'histoire devient plus trouble.
Threatened, if they were divorced, she would not.
Sa mère l'aurait menacé de le déshériter s'il divorçait.
Allegedly, there's no written evidence.
Mais il n'y a aucune preuve écrite de ça. Ce ne sont que des témoignages indirects. Le plus proche conseiller politique de Franklin Roosevelt, un petit homme appelé Louis Howe, lui a dit, écoutez, si vous divorcez, votre carrière politique en Amérique est terminée. À l'époque, c'était sûrement vrai. Ils sont donc restés ensemble. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Mais après ça, ils ont cessé d'être des conjoints pour devenir plutôt des partenaires politiques. Pour autant qu'on sache, ils n'ont plus jamais partagé le même lit. Ils faisaient chambre à part. Elle s'est jetée dans des causes politiques et sociales et est devenue l'Eleanor Roosevelt que l'on connaît. D'une certaine manière, cette liaison a produit l'une des femmes les plus extraordinaires de toute l'histoire américaine. C'est assez paradoxal, mais c'est vrai.
Dear Mrs. Roosevelt, don't hang your head in pride. His mortal flesh is laid away, but his good work fills the sky. This world
Ce 11 août 1921, Franklin Roosevelt est en vacances dans l'une de leurs maisons, sur l'île de Campobello. Il se sent épuisé après la baignade. Le lendemain matin, il ne peut plus se lever.
En 1921, Franklin Roosevelt a développé une paralysie infantile, la polio. Il est resté très sérieusement handicapé. En gros, il n'avait plus l'usage de ses jambes. Il n'avait plus jamais fait un pas tout seul. Il a gardé des séquelles physiques très importantes. Ce qui m'agace le plus quand je fais des recherches sur Franklin Roosevelt, ce sont ces centaines de livres dans lesquels on peut lire « Il a vaincu la polio ». Personne n'a jamais vaincu la polio. Après la polio, on devient ce que la polio a laissé. Et il faut apprendre à s'adapter. On apprend à faire avec ses faiblesses. Et Dieu sait que c'est ce qu'il a fait. Il a passé 7 ans à essayer de se remettre debout et il n'a jamais réussi.
Jamais Franklin Roosevelt n'a voulu admettre qu'il était atteint pour le restant de ses jours. Eleanor va devenir ses jambes et devenir elle-même.
Quand il a contracté la polio et que les premiers symptômes se sont manifestés, ils étaient sur une île isolée au Canada.
Anne Roosevelt.
Et elle s'est occupée de lui attentivement, tendrement et inlassablement. Pourtant, leur couple avait déjà traversé une crise. À mes yeux, c'est la preuve qu'ils étaient attachés l'un à l'autre et qu'ils étaient prêts à mettre certaines choses de côté pour faire ce qui devait être fait.
Après avoir contracté la polio, il est tombé malade à Campobello, la résidence d'été de la famille au large du Canada. Mais il a fini par être rapatrié ici.
Michael Othenreith.
Et il a entrepris de se remuscler les jambes à l'aide de béquilles. Il partait de la porte de la maison avec pour objectif d'arriver à marcher jusqu'au bout de l'allée. Jour après jour, il se traînait sur ses béquilles, les jambes prises dans les attelles, en essayant d'aller chaque fois un peu plus loin dans l'allée. Après cet effort, le président, qui n'était d'ailleurs pas encore président, finissait souvent trempé de sueur et tellement épuisé qu'il fallait le porter jusqu'à la maison. Il a persisté jour après jour. Mais malheureusement, les muscles de ses jambes n'ont plus jamais fonctionné.
Sa maison d'Hyde Park porte les traces de l'irrémédiable et d'une nouvelle géographie du mariage.
He would stay here and in fact, according to Eleanor Roosevelt, after FDR contracted polio,
quand il a eu la polio, il était ici. D'après Eleanor Roosevelt, après son attaque de polio, Franklin Roosevelt avait besoin d'un valet pour l'aider à s'habiller et à se déshabiller.
Francesca Maxali Urbin.
Et elle a donc emménagé dans la chambre voisine. Roosevelt est resté seul dans cette chambre. Très souvent, le matin, avant de descendre, il lisait les journaux au lit. Ou si l'un de ses conseillers était là, il le recevait ici, plutôt qu'en bas. Un peu plus loin, dans le couloir.
This is the room that Eleanor Roosevelt moved into. According to her, this whole suite of rooms, the bedroom that
voici la chambre dans laquelle s'est installée Eleanor Roosevelt. D'après Eleanor, ces trois pièces, la chambre que vous venez de voir, cette petite pièce qui était à l'origine un dressing et qui est devenue sa chambre après la polio, et cette dernière pièce au bout du couloir, était destinée à son usage personnel et celui de Franklin. Mais à un moment donné, Sarah a décidé d'emménager dans cette aile avec eux. Elle a échangé la chambre où est né Franklin Roosevelt contre la chambre du monde. C'était sa maison. Elle pouvait dormir où elle voulait. Mais elle était très proche de son fils. Et peut-être qu'après la polio, elle a voulu être le plus près possible de lui. Donc, Eleanor occupait cette petite chambre. Mais plus tard, il lui a fait construire un cottage à l'extrémité est de la propriété, à Valkill. C'était son espace à elle, un bâtiment qu'elle pouvait utiliser à sa guise. Quand il était à Hyde Park, elle venait ici. Franklin Roosevelt utilisait cette rampe pour descendre depuis le vestibule dans le salon bibliothèque, qui était une pièce encaissée. Après avoir contracté la polio en 1921, à l'âge de 39 ans, il ne pouvait plus prendre un escalier. Pour se tenir debout, il devait fixer sur ses jambes des attelles qui pesaient environ 3 kilos chacune. Il portait donc 6 kilos de métal sur le bas du corps. Une fois équipé de ces attelles, il devait s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un pour se redresser et faire plus ou moins semblant de marcher. Les escaliers étaient impraticables. Alors il a fait installer cette rampe. Là-bas, dans le salon, vous remarquerez une chaise roulante. Il en avait plusieurs, qu'il avait conçues lui-même. C'était des chaises de cuisine avec des roues à la place des pieds. À l'époque, les fauteuils roulants avaient un grand dossier et des bras. Franklin Roosevelt ne les aimait pas. Il trouvait que ça lui donnait l'air d'un invalide.
And he knew that people had, sadly, this idea that if you had a physical disability,
et malheureusement, beaucoup de gens avaient tendance à faire l'amalgame entre handicap physique et handicap mental. Il pensait que si les Américains savaient qu'il ne pouvait pas marcher, ils ne l'éliraient jamais président des États-Unis. Alors il a caché son handicap au public.
Des dalles de pièces qui racontent les défis et la toute-puissance d'un homme paralysé.
Ici, dans l'aile nord de la maison, il y a une petite pièce qui servait autrefois de salle de classe aux enfants Roosevelt et qui est ensuite devenue le bureau de Roosevelt. C'est ici qu'il se faisait servir des cocktails avant le dîner. Il appelait ça l'heure des enfants.
Wadsworth Longfellow poem.
C'est le titre d'un poème d'Henry Wadsworth Longfellow.
It was a room where he liked to sit and relax.
Il aimait venir se détendre dans cette pièce en compagnie de quelques invités.
Mais
ce n'est pas pour ça qu'elle est connue. Elle est connue parce que Franklin Roosevelt et Winston Churchill y ont rédigé ce qu'on appelle l'aide-mémoire de Hyde Park.
Initialed a document called the Hyde Park Aid Memoir, and this was the document.
Un document qui parle de la bombe atomique, de son utilisation possible contre les Japonais et de l'importance de garder le secret vis-à-vis des Russes.
And up here, I want to point out the lift.
Ici, j'aimerais vous montrer l'ascenseur.
Prior to FDR getting polio, was a trunk.
Il a été installé avant la polio de Franklin Roosevelt pour monter et descendre les mâles cabines. En effet, chaque année au printemps, les Roosevelt partaient en Europe, comme ça se faisait alors dans leur milieu social. Et ils emportaient de grosses malles pleines de vêtements. Lorsque Franklin Roosevelt est devenu paraplégique, il a utilisé l'ascenseur pour passer d'un étage à l'autre. Il ne pouvait pas prendre les escaliers. Cet ascenseur était mécanique, il ne l'a jamais fait motoriser. Il en aurait eu les moyens, mais il a choisi de ne pas le faire parce qu'il voulait être autonome. Il pouvait donc l'utiliser lui-même. Comme vous le voyez, il y a une grosse corde qui servait à monter et à descendre et une autre plus fine qui servait à freiner. Cet ascenseur descendait jusqu'au sous-sol et montait jusqu'au deuxième étage. Et grâce à lui, il se sentait tout à fait indépendant. Une fois sur le palier, il avait encore quelques marches à monter à l'aide d'une autre rampe, semblable à celle du salon bibliothèque. Il avait fait ajouter une sorte de rail sur la main courante pour se hisser jusqu'au couloir dans son fauteuil et continuer jusqu'à sa chambre. Il adorait ce sentiment d'indépendance.
Il a effectivement créé un centre de rééducation pour les gens atteints de la polio en Géorgie, à Warm Springs. C'était un endroit formidable parce qu'il pouvait y mettre de côté les complexes liés à sa maladie. Ce n'était jamais le cas ailleurs. Là-bas, il n'avait pas besoin de porter ses attelles. Il pouvait s'installer au bord de la piscine sans se soucier de ses mollets atrophiés parce que tout le monde avait les mêmes. Il s'amusait à essayer de faire faire de l'exercice aux gens. Il adorait ces moments. Il aimait qu'on l'appelle le vieux docteur Roosevelt.
Revenu dans les cercles du pouvoir, il ne laisse plus rien voir, sinon des ambitions intactes. Mais il ne tient plus debout. Son corps est à l'opposé du pays. Les États-Unis vivent une décennie folle, les vrombissantes années 20, où l'actionnaire et l'industriel se régalent d'une croissance et d'une production en hausse, où l'ouvrier joue sa vie sur de longues chaînes d'assemblage. L'Amérique, d'après son président Herbert Hoover, est proche du triomphe final sur la pauvreté. Franklin Roosevelt, lui, se cherche des jambes dans les allées de Hyde Park.
C'est seulement quand il a été élu gouverneur de l'État de New York, c'est-à-dire environ 7 ans après avoir contracté la polio, qu'il a interrompu sa rééducation physique. Des exercices très intenses avec des poids et les tentatives de marche dans l'allée. Quand la politique est revenue dans sa vie, il a renoncé à récupérer l'usage de ses jambes. Mais pendant ces 7 années, il a énormément renforcé le haut de son corps. Si bien qu'avec des attelles métalliques, en tenant les bras de l'un de ses fils d'un côté et sa canne de l'autre, il arrivait à donner l'impression de marcher. Il balançait une jambe en avant, répartissait son poids sur le pied qu'il venait poser au sol, puis balançait l'autre jambe. C'était un peu instable. C'était difficile et extrêmement fatigant. Mais dès qu'il savait qu'il allait devoir faire une apparition publique et parler debout sur une estrade, Franklin Roosevelt se renseignait à l'avance sur la distance entre son siège et l'estrade et il s'entraînait à la parcourir pour être sûr de faire ses quelques pas sans arriver en sueur. Ça avait l'air facile, mais en vérité, ça ne l'était pas du tout.
Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner.
Il est élu gouverneur de l'État de New York en 1929. Quelques mois plus tard, c'est le crack. Le système bancaire capitaliste s'effondre. L'orgie de la spéculation boursière a englouti épargnes et placements. Les usines ferment. Vient le chômage pour des millions de gens. Puis l'expropriation. Bientôt la faim au ventre dans le plus prospère des pays. Les entrepôts débordent. Les vivres pourrissent. Les gens mendient pour manger. Le président Hoover ne laissera finalement en héritage que des bidonvilles. Les Hooverville. Et c'est dans l'un d'entre eux que Tom Joad naît sous la plume de Steinbeck et ses raisins de la colère, proclamant « Là où on lutte contre le sang et la haine, là où un flic bat un type, là où un nouveau-né pleure de faim, on me trouvera. »
Then
it don't matter. I'll be all around in the dark. I'll be everywhere. Wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. In the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise and living in the houses they build, I'll be there too.
Tom said, Mom, wherever there's a cop beating a guy, wherever hungry and bone baby. Fight against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. There's somebody fighting for a place to stay. A decent job or a helping hand. Maybe somebody struggling to be free. Look in the eyes, Mom, you'll see me. Highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light with a ghost of old time Joe.
Immense campement au cœur de Central Park. Le gouverneur Franklin Roosevelt crée un système d'allocation chômage dans l'État de New York. Il décide d'une nette augmentation des impôts des plus riches, d'emprunts pour financer des travaux publics. Il ajoute la limitation de la semaine de travail, l'interdiction du travail des enfants. Certains murmurent que c'est socialiste, d'autres que la souffrance et la polio l'ont changé. C'est à la fois une tragédie, une épreuve terrible, mais aussi ce qui lui est arrivé de plus important. Ma grand-mère disait, et je suis d'accord avec elle, que ça lui avait permis de faire l'expérience viscérale de la souffrance et de comprendre que quand quelqu'un dit « je souffre », il faut le croire. Son besoin des autres l'a amené à se rendre compte qu'aider quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui vit avec une déficience quelconque, c'était agir de la façon la plus juste possible et qu'il était important de rendre à chacun son intégrité.
Il y a une théorie qui a fait l'objet d'un livre récemment. C'est une théorie réconfortante selon laquelle la maladie aurait fait de lui un autre homme.
And then he got sick, and then he became another person. He was exactly the same person.
Il est resté exactement le même homme.
It always interests me that when they asked,
je trouve intéressant de voir que quand on a demandé à Eleanor Roosevelt ce que la maladie avait changé chez lui, elle a longuement réfléchi et elle a fini par répondre, ça lui a enseigné la patience.
That's not the same thing.
Ce n'est pas la même chose qu'un cœur soudain sensible aux malheurs du monde.
Underprivileged. A lot of that. It had nothing to do with polio.
Cet aspect de sa personnalité n'avait pas grand-chose à voir avec la polio.
With the world he found and being a Democrat.
Ça relevait plutôt du monde qu'il avait découvert et du fait qu'il était démocrate.
It's your duty as a wealthy person to help the less fortunate. All of those things are part of it.
Il estimait qu'il était du devoir des gens riches d'aider les moins favorisés.
Suddenly become Saint Franklin.
Il y avait un peu de tout ça à la fois, mais il n'est pas soudain devenu Saint Franklin après être tombé malade. J'ai du mal à accepter qu'on puisse penser que la maladie a totalement modifié sa personnalité. C'est faux.
If you're sitting in a chair, first of all, if you've been a golfer and a dancer, and he was not a great athlete, but he was sort of.
Imaginez un peu que vous ayez pratiqué le golf et la danse.
Live.
N'était pas un grand athlète, mais il était agile, nerveux et gracieux.
And now you are suddenly.
Et là, tout à coup,
in that chair, and you
vous vous retrouvez dans un fauteuil
without help,
dont vous ne pouvez pas sortir tout seul.
Things.
Et vous avez besoin d'aide.
It teaches you two things. One
ça vous enseigne deux choses.
Terribly charming.
La première, c'est à utiliser votre charme. J'ai besoin de vous pour m'apporter quelque chose et vous n'en avez peut-être pas envie, alors je dois déployer tout mon charme. C'est la première chose.
And then it's patience.
La seconde, c'est la patience.
Vous avez you know, I'm just doing the simple things. You
même pour les choses les plus simples. Vous voulez votre collection de timbres et elle se trouve sur une étagère que vous ne pouvez pas atteindre.
Totally believe that.
Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais je n'ai pas retrouvé une seule lettre, aucun de ces éléments qu'on cherche en tant qu'historien qui disent « Je n'avais jamais réalisé qu'il y avait tant de pauvres gens. » Rien, jamais.
None of that. None of that. And I don't
je ne dis pas ça par cynisme. Il a fait énormément de bien. Il a fait des choses merveilleuses et très progressistes dont on profite encore aujourd'hui. Même si on ne reconnaît pas que ça vient de lui. Mais je ne crois pas que ce soit le fruit d'une sorte de sainteté subite due à la maladie.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake, Joe, by God, says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead. The copper bosses shot you, Joe. They killed you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man. Says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die. Standing there as
pendant ce temps, le gouvernement Hoover fait tirer sur les vétérans des tranchées de 14 qui campent à Washington et réclament les bonus qu'on leur avait promis. À Détroit, Henry Ford fait tirer sur les marcheurs de la faim qui réclament du travail. 4 morts. Roosevelt est l'homme qui monte. Et plus personne ne doute qu'il sera le prochain candidat à l'élection présidentielle. Il est investi par la Convention démocrate du 2 juillet 1932 à Chicago.
Dans tout le pays,
men and women forgotten in the political philosophy,
les hommes et les femmes oubliés par la philosophie des gouvernements pendant 12 ans,
look to us here for guidance and
nous demandent une direction et un meilleur partage des richesses de ce pays. Dans les fermes, dans les métropoles, dans les petites villes et les villages, des millions de citoyens veulent croire qu'ils peuvent retrouver leur niveau de vie. Ces millions de gens ne peuvent espérer en vain. Je vous promets et je m'engage à une nouvelle donne pour les Américains. Rassemblons-nous. Soyons les prophètes d'un nouvel ordre fait de compétences et de courage. C'est plus qu'une campagne électorale. C'est un appel aux armes. Aidez-moi. Pas simplement à remporter la majorité des voix, mais dans cette croisade qui rendra l'Amérique à ceux qui la font.
C'était le deuxième épisode de la grande traversée Franklin Roosevelt, l'Allier. Avec Judith Carpenter, Ivan Nabokov, Geoffrey Ward, William Harris, David Woolner, Francesca Maxali Urbin, Anne Roosevelt, Michael Kazin, Rebecca Herbolding, Michael Ottenreith, Kirsten Carter, Catherine Bronwell. Et les voix de Clara Chabalier, Liz Combe, Laurent Lederer, Joachim Salinger, Evelyne Guimara, François Loriquet. Prise de son, Benjamin Thuot, Valentin Azan-Zielinski. Traduction, Céleste Carlin, Marine Elgon. Recherche, Ina Sabine Dahuron. Mixage, Valentin Azan-Zielinski. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaël Gillon.